Et vous, vous êtes, si vous êtes de Brive, vous aussi des culs. Et d'autres culs que le Cusset. Et donc, ce sont les gens du Cusset, du quartier des Chapelies, qui m'ont demandé de faire donc une étude de leur quartier. Alors, je vais vous parler des quartiers Est, mais essentiellement des Chapelies. Alors, voici ce qu'on peut appeler les quartiers Est de Brive. Alors, les limites, ça va être du côté Est, la frontière avec Malemort et la frontière avec Connac. Ce sont des frontières absolument pas naturelles, si on peut dire, c'est-à-dire que, à part le fait que c'est en partie un ruisseau et en partie des collines, c'est pas ce qu'on peut appeler des limites tout à fait naturelles. Disons que le ruisseau, le numéro 3 du plan, c'est-à-dire le ruisseau du Pian, c'est à peu près limite entre Malemort et Brive. En revanche, avec Connac, c'est beaucoup moins clair, quoi, c'est beaucoup moins net. Ça doit être plutôt des fragments de chemin, vous voyez, qui font ces limites. Alors, il y a dans cette partie est, donc, deux choses à différencier. D'une part, ce qu'on appelle les mâts, c'est-à-dire des tout petits villages, des hameaux, qui se trouvent aux alentours de Brive, et pendant très longtemps, ça restera, comme dans le nord de Brive, très peu peuplé. Et puis, il y a de véritables villages, c'est-à-dire cette fois-ci des choses un peu plus habitées, et qui se trouvent dans la partie sud. Alors maintenant, si on cherche quelle est la limite du côté ouest, c'est-à-dire du côté de Brive, la limite, c'est la route ancienne qui était la route de Paris à Toulouse, mais qui, au lieu de passer par la porte de Publin et puis ensuite Noailles et Sugac, passait l'hôpital Saint-Jean, enfin Nazareth-Jujal, l'hôpital Saint-Jean et Martel. C'est cette route, donc c'est cette limite que vous avez en numéro 2, qui est à peu près, vous voyez, ce qu'on peut appeler, donc c'est la ligne marron, c'est-à-dire celle-ci, vous voyez, voilà, qui vous sert de limite pour ce qu'on peut appeler les quartiers sud de Brive. Alors les quartiers sud de Brive sont, eux, carrément composés de gros villages. Ici, les villages en question sont des villages tout à fait moyens. Alors si on part des villages maintenant tout à fait au sud, on a dans le A, le point A, donc le village de Gallo. Gallo est connu depuis le début du Moyen-Âge. En B, on a un tout petit village qui s'appelle Combe-Rosier, de l'autre côté du ruisseau d'Enval, donc encore un petit village. Ensuite, en C, on a Varce. Ensuite, en D, on a Cabanou. En E, on a Sèche-Père. En F, on a Balette. En G, on a Enval. Et là, je vous ai fait un triangle du fait que c'est devenu un château au XVIe siècle, alors que jusque-là, ce n'était qu'un village. En H, l'étang. L'étang est de l'autre côté du ruisseau d'Enval, mais il se trouve que c'était le même propriétaire. Autrement dit, ça fait une sorte de petit fief. En I, c'est Place. Place qui est maintenant occupée par les terrains de la
caserne.
Et enfin, Casto. Alors, Casto, j'en ai particulièrement parlé dans la conférence que j'ai faite aux gens du quartier des Chapelies, parce que c'est de ce fief de Casto que dépendaient les Chapelies. Ensuite, les mâts. Alors, les mâts, jusqu'au XIXe siècle, on va dire jusqu'à l'arrivée du chemin de fer, pratiquement ces mâts qui sont dans la couronne de Brive, tout autour de Brive, sont à peu près pas peuplés. Chaque fois, il y a une ou deux maisons. Et c'est le cas de Croque de Mule, donc sur la colline, Malacroix, dans la descente, les Chapelies, alors cette fois-ci dans la plaine, et le Pignet aussi dans la plaine. Et puis, en face de la caserne, la Grave, le quartier de la Grave. Alors maintenant, on va revenir carrément à la frontière de Malemort, la Garenne Verte. Ensuite, de l'autre côté de la frontière, côté Malemort, un fief, c'est-à-dire là encore un seigneur, à la Grande Borie, qui était une maison noble au XVIe siècle elle aussi, et qui avait donc dans ses fiefs la Garenne Verte, Ligolie. Alors Ligolie, c'est carrément la banlieue de Brive. Et son nom dit bien ce que c'est. Ligolie, c'est les marécages, et ça veut dire que c'était à peu près pas peuplé, quoi. En tout cas, c'était pas recommandé d'aller essayer d'habiter à ces endroits-là. Et pour finir, les Bordes. Les Bordes, c'est le moulin qui se trouve à la frontière de Malemort et Brive, et qui dépendait des seigneurs de Malemort, d'ailleurs. Ensuite, eh bien, sur cette carte, vous avez les ruisseaux. Et le ruisseau, si vous voulez, qui irrigue toute cette zone, eh bien, c'est le ruisseau d'Ambal, qui rejoint le pian venu de Cognac, pratiquement au moulin de Casto, puisqu'il y avait un moulin à Casto, et ensuite, donc, qui sert de frontière entre Brive et Malemort. Et comme vous le savez certainement, que Malemort et Brive, disons jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution, sont vraiment ensemble, puisque c'est le même seigneur, les mêmes seigneurs, qui dirigent les deux endroits. Voilà, et nous allons donc passer à des particularités plus précises. Alors là, vous avez une carte du XVIIIe siècle, vous voyez, qui vous montre Brive telle qu'elle était encore, disons, au XVIIe ou XVIIIe siècle, entourée de ses remparts, et puis ces petits villages ou ces mâts dessinés. Alors évidemment, si la carte était agrandie, vous verriez que les détails sont assez amusants et très précis, parce que chacun de ces villages dessinés sur cette carte sont dessinés de manière différente. Les uns ont des petits clochetons, les autres simplement des petites maisons, et c'est très, très amusant à regarder de près, quoi, en ayant une carte plus précise. Ce qu'elle explique, c'est que tous ces villages sont de la justice des seigneurs de Brive, alors qu'au nord de Brive et même au sud, il y a des cas différents. Donc tous ces villages sont de la justice des co-seigneurs de Brive, mais ils sont souvent, pour les rentes, c'est-à-dire ce qu'on donne comme argent chaque année à un seigneur, c'est pas la justice à ce moment-là, c'est vraiment la location, si vous voulez, des terres, et bien des seigneurs qui sont très variés, très différents. Et bien en particulier les seigneurs de Cognac, qui sont tellement près qu'effectivement ils ont des intérêts et des rentes dans pas mal de villages. Et puis il y a aussi des bourgeois de Brive, et naturellement, comme dans le nord de Brive, toute cette région les a beaucoup attirés. Et ils s'intéressaient à ces prés, qui sont souvent d'ailleurs marécageux. Ils s'intéressaient aux premiers coteaux, qui avaient des vignes. Et enfin, ils s'intéressaient aussi aux châtaigniers, à toutes les forêts de châtaigniers qui sont sur les hauteurs. Voilà donc ce qu'on peut imaginer comme une situation vers 1700. Voilà les fameux culs. Ou du moins une partie de ce cul. Le Q6, c'est pratiquement le quartier de la Garenne Verte et du Moulin des Bordes. Alors, pourquoi ils l'ont limité à l'avenue Pompidou pour faire un Q7 avec les chapelliers? Ça, mystère. Mais c'est des quartiers très peuplés maintenant. Donc, on comprend qu'ils ont essayé de les faire relativement petits. Alors, la limite de ce Q7 côté Brive, c'est la deuxième ceinture de boulevard. La deuxième ceinture de boulevard, elle est très récente. Jusqu'à la caserne, elle a été finie dans les années 1870. Et dans la partie qui remonte ensuite vers la Corrèze, c'est-à-dire le long de la piscine, vous voyez, du cimetière, etc., ça date seulement des années 1900-1920. Et on ouvre le pont du Buis seulement en 1930. Ça veut dire que tout ce coin-là, vous voyez, est pratiquement inhabité. Tout ce coin de Dégoli, etc., derrière le cimetière Thiers, là-haut, est pratiquement inhabité jusqu'en 1930. Le Q2, alors là, on pourrait discuter. Le Q2, c'est ce qui se trouve derrière la caserne. Et puis, je ne sais pas pourquoi, ils ont fait un petit crochet, là, pour inclure le petit morceau qui reste dans la zone d'au-dessus qu'on va voir. voilà la zone au-dessus, c'est le Q8. Le Q8 comprend tous ces villages dont je vous ai parlé. Bien entendu, ce n'est pas la même échelle. Ça, c'est en réalité une échelle bien différente de la carte de tout à l'heure, parce que ça, c'est très grand. Ce Q8, vous voyez, il est tout en longueur, le long du ruisseau d'Enval, et il comprend des villages qui maintenant sont devenus des lotissements, enfin, qui sont quand même assez peuplés. Voilà pour donc ces zones. Et j'avais commencé donc, et je vais commencer par Castaux. Parce que c'est Castaux qui est, comme je vous le dis, un peu le seigneur de tout le secteur. Alors pour comprendre ce que c'est que Castaux, il faut imaginer que vous avez le ruisseau du Tian, donc qui arrive au nord, le ruisseau d'Enval qui nous rejoint, et un moulin, un gros moulin, un moulin à trois meules, autrement dit un des plus gros moulins de rive, qui se trouve assez ingénieusement à un débouché, si vous voulez, à un détournement du ruisseau du Pian, qui passe donc par un canal d'amené jusqu'au moulin, et un détournement aussi du ruisseau d'Enval, qui le rejoint, vous voyez, en passant sous le moulin. C'est astucieux parce que s'ils avaient mis le moulin au véritable confluent, il y aurait eu des problèmes énormes au moment des inondations. C'est-à-dire que le moulin aurait été forcément emporté. Tandis que là, ils avaient toujours les moyens d'arrêter l'eau venant par les canaux d'amener pour éviter que le moulin soit emporté. Et ce moulin a donné naissance donc à un château. Et on va voir donc qui sont les propriétaires de ce château, donc qui se trouve à côté de ce moulin. On en entend parler dès le Moyen-Âge, dès le début du Moyen-Âge. Au XIIIe siècle, c'est un château qui appartient à un dénommé Hugues Chartier. Ça doit vouloir dire un changeur, un monsieur qui manipule la monnaie. C'est un bourgeois de Brie. C'est pas un noble, hein, c'est un bourgeois de Brie, mais un très grand bourgeois. Son domaine se compose de ce qu'on appelle à l'époque un repère, c'est-à-dire un petit château, pas trop important, un moulin et des terres. Et ces terres s'appellent les terres du crochier, et non pas encore Castaux. C'est pas le nouveau nom. Ces terres, elles s'étendent dans toute la plaine, alors au nord jusqu'à la Garenne verte, et probablement aussi en direction des Chapelies, donc jusqu'aux Chapelies. Ces chapiers s'éteignent en 1416. 1416, c'est une très mauvaise année pour Brive. C'est l'époque où le vicomte de Turenne est en conflit avec la ville de Brive. Il a démoli le pont du Puy, qui était le seul pont de Brive. Et d'autre part, ces soldats se baladent dans la campagne et ils rançonnent un peu tout le monde, tous les paysans du coin. Donc ce dernier chapier, Guillaume Chapier, qui avait été consul d'ailleurs en 1350, est le dernier de cette famille. Il fonde ce qu'on appelle une vicairie. Une vicairie, vous savez, c'est un service de messe dans une église. Et cette église, c'est Saint-Martin, bien sûr. Toute cette région dépend de Saint-Martin. C'est-à-dire que ce sont des villages qui dépendent directement de la collégiale Saint-Martin. Après lui, en même temps que lui, il y a d'autres bourgeois de Brive qui s'appellent les Donadieu. Ces Donadieu sont célèbres parce qu'ils ont prêté de l'argent à l'abbé de Tulle, et cet abbé de Tulle les a mis en procès en disant qu'ils faisaient de l'usure, c'est-à-dire qu'ils avaient prêté de l'argent à des taux usuraires considérables. Ils vont donc être condamnés, mais enfin je suppose qu'ils s'en sont tirés quand même. Et ils sont propriétaires, eux aussi, de rentes sur ce crochet. Ces rentes, c'est grâce aux seigneurs de Malemort, parce que là encore, les seigneurs de Malemort sont des gros emprunteurs d'argent. Ils ont donc emprunté de l'argent, c'est bon à Dieu. Et voilà que, en récompense, on donne des rentes sur le crochet à cette famille de Donadieu. Au XVe siècle, après la guerre de Cent Ans, arrive donc une famille Castaux, et cette fois-ci, ces Castaux donnent le nom de Castaux à leur petit château et à leur domaine. Bien sûr, on est à la fin de la guerre de Cent Ans, tout ça ce sont des ruines, et en 1450, on appelle ça donc à l'époque des Hériaux ou des ruines, et ils vont donc être obligés de reconstruire un château. Alors évidemment, si ce château avait subsisté, on pourrait vous dire de quelle époque il est exactement. Malheureusement, c'est l'endroit où la TRT a installé ses bâtiments, les bâtiments de l'usine, quoi, au moment des années 50 à peu près. Et malheureusement, ils ont démoli le château parce qu'ils considéraient qu'il n'était pas assez élégant, sans doute. Et ils ont construit donc leur bâtiment à la place. Quel dommage, c'est qu'on n'a pas, je ne crois pas qu'on ait de photos ou de gravures qui représentent Castaux. Et c'est bien dommage. Parce que tout de même, en 1950, on aurait pu avoir au moins des photos. Donc cette famille Castaux remplace la famille Xavier, peut-être par mariage d'ailleurs, tout simplement. Et c'est les seigneurs de Castaux au XVIe siècle, donc, et au début probablement du XVIIe siècle. Ensuite, ils passent la main par mariage à une famille Noche. Alors cette fois-ci, c'est vraiment pas des gens du coin puisqu'ils sont de Vigeois, et leurs terres, leurs autres seigneuries sont pas Vigeois. Mais enfin, disons qu'il est quand même seigneur de Castaux dès les années 80, 1580, au moment des guerres de religion. Et ensuite, vous allez voir que les bourgeois de Brive vont quand même essayer de devenir propriétaires. Toujours par mariage, une demoiselle Castaux donc épouse un monsieur Dufort, libéral Dufort. Vous voyez que libéral, ça veut dire qu'il est du quartier de l'église Saint-Libéral à Brive. C'est tout à fait caractéristique. C'est un prénom qui a été beaucoup donné à Brive, beaucoup porté, mais essentiellement par les gens de ce quartier. C'est-à-dire le quartier qui se trouve tout à fait au nord de la ville. Ensuite, c'est Dufort, donc, qui sont des grands bourgeois de Brive, à leur tour vont passer la main aux Bergerons. Les Bergerons sont du sac, et ils deviennent donc à leur tour seigneurs de Castaux. 18e siècle, un marchand de Brive, François Malpère, c'est une grosse famille de Brive, les Malpères, achète pour 9000 livres le domaine de Castaux, avec son château. Le duc de Noailles était à ce moment-là co-seigneur de Brive, et il va presque tout de suite intervenir. Comme François Malpère ne lui a pas rendu hommage, puisqu'il était seigneur de Brive, il lui réclame, alors non seulement l'hommage, bien sûr, mais aussi une rente. Et à cette occasion, on apprend donc que le château n'est plus appelé que maison. Autrement dit, ça veut dire qu'il n'est pas crénelé, il n'est pas pourvu de moyens de défense. C'est une simple maison, avec sa grange, son moulin et son pressoir. Outre cette rente due au seigneur de Noailles, il devait une rente également au prieur de Brive, ce qui est logique, parce que le prieur de Brive possédait des rentes à peu près dans tous les villages de Brive. Au moment de la Révolution, son petit-fils, Jean-François Malpère, fait faillite. Au moment de la Révolution, tous ces gros marchands de Brive ont acheté beaucoup de biens nationaux, mais ils les ont payés trop tôt. C'est-à-dire qu'ils les ont payés en véritable franc, en véritable livre, c'est-à-dire en pièces d'or. Or, un an après, on s'est mis à fabriquer des assignats, c'est-à-dire de la monnaie de papier, et ceux qui avaient été assez malins pour ne pas payer comptant, se sont mis à payer en papier, c'est-à-dire en rien du tout. Finalement, au bout d'un an ou deux, ça ne valait plus rien. Et ceux-là, ils se sont retrouvés en très bonne situation, parce qu'ils avaient acheté des biens nationaux pour du papier. Malheureusement pour lui, Jean-François Malpère, il a payé trop vite. Et du coup, il fait faillite. Il fait faillite au moment où il se met à être obligé d'utiliser des assignats. Ses enfants, donc, qui sont quatre, Jean, Marie, Thérèse et Victoire, héritent de Castaux. Le domaine est probablement moins intéressant qu'on pourrait croire. Il ne rapporte que 700 francs, ce qui n'est pas énorme. Mais ils héritent aussi du magasin des Malpères qui était rue Corrèze. et qui est beaucoup plus intéressant, si vous voulez, comme, en tant que commerce. Ça, son revenu est de 300 francs, mais probablement plus en réalité. Et donc, tout ça est vendu. Ils vont les vendre, donc, probablement au milieu du 19e siècle. Quant au moulin de Castaud, il est, comme tous les moulins de Brive, après la Révolution, aux mains d'une famille qui s'appelle la famille Sauvage. Les Sauvages étaient tanneurs, ils étaient aussi meuniers, et ils ont pratiquement, après la Révolution, tous les moulins de Brive, parce que, là encore, ça a été des choses qui ont été vendues en bien national. Le moulin des Bordes était au seigneur de Malemort, le moulin de la Bouvie était au prieur, le moulin du prieur aussi était au prieur, et les deux moulins de la Porte étaient à l'abbaye de Voisines. Autrement dit, ils ont tous été vendus en bien national. Et donc, c'est le beau-frère de Sauvage, qui s'appelle Mirgo, qui donc est le meunier du moulin des Bordes et du moulin de Castaud aussi. Alors, il se plaint à cause de Castaud que lorsqu'on a construit la route de Bénat, la route de Bénat, c'est donc la route actuelle qui mène jusqu'à Bénat, vers 1850-57, vous voyez, il se plaint que ces travaux ont empêché son moulin de moudre, en tout cas l'ont privé d'eau, et il demande donc qu'on le rembourse. Enfin, et là je termine par là, après la Deuxième Guerre mondiale, le domaine de Castaud va devenir tout simplement un site industriel, puisque les entreprises qui étaient venues du Nord et de l'Est, et en particulier de Lorraine, s'étaient réfugiées à Brive pendant la guerre et s'étaient installées là. Voilà donc pour ce domaine qui est véritablement, si vous voulez, le seul grand fief de ce secteur avec Amballe. Et j'en arrive donc à la zone des Chapellies en réalité. Alors le ruisseau d'Amballe, le ruisseau du Pian se rejoignent, ils traversent la plaine et ils rejoignent la Corrèze. On peut considérer que jusqu'à la ligne en pointillé rouge qui se trouve donc là-haut, vous voyez, qui commence donc au niveau de la Garenne verte, qui se continue ensuite par le ruisseau qu'on appelle le ruisseau des Gaulis, c'est ce qu'on peut dire être la zone inondable. C'est-à-dire qu'au nord de cette zone, personne n'habite jusqu'à la Révolution, parce que c'est trop dangereux. À l'époque, il n'y avait pas d'assurance pour les inondations, et les gens se gardaient bien d'aller s'installer dans des zones inondables. Donc ça commence à être utilisable, les terrains, seulement au sud de cette zone. Alors cette zone est traversée par le ruisseau des Chapellies, simplement. Alors un petit ruisseau, vous voyez, qui traverse la zone et oblique jusqu'à devenir sur le ruisseau des Gaulis. Ensuite, cette zone est traversée par une route qui n'est pas encore importante, en tout cas jusqu'au 19e siècle, et qui est cette route d'Aurillac, donc, qui est aussi maintenant l'avenue Georges Pompidou. En revanche, elle, à la limite sud, se trouve cette route Paris-Toulouse, donc qui part de la route, qui part de la porte des Cordeliers, qui longe ensuite le couvent des Cordeliers, c'est-à-dire des Franciscains, qui ensuite, arrivée au pied de la colline, oblique vers l'est, et se dirige vers Amballe, au lieu de se diriger comme maintenant par le Rocher Coupé. Entre parenthèses, je vous signale qu'au Rocher Coupé, il y a eu jusqu'à une date assez récente un gros panneau sur lequel il y avait marqué route de Saint-Jacques de Compostelle. Oui, mais alors à partir de 1844, parce que là, le Rocher Coupé, c'est en 1844 qu'il a été enfin tracé et creusé, et donc si on voulait mettre quelque chose aux routes de Saint-Jacques-de-Compostelle, il aurait fallu la mettre plutôt du côté de Malacroix, vous voyez, ou vers Amballe, par exemple. Enfin, c'est un écriteau qui a disparu. Donc je ne peux plus protester. Et enfin, il y avait une route qui allait depuis la croix de Malacroix jusqu'à la croix du Trieux, ou de, si vous voulez, du carrefour, et qui est donc une route longeant les collines et permettant d'éviter même toutes les inondations possibles, vous voyez. C'est au-dessus du ruisseau des Chapelies. Et voilà donc où se trouve les Chapelies. C'est donc une zone non inondable, mais très humide, extrêmement humide. Alors, à l'origine, qu'est-ce que c'est que les Chapelies ? Alors, le nom des Chapelies, ça a beaucoup excité, on peut dire, la curiosité des gens, et ils se sont demandé s'il y avait des chapelles. En fait, il n'y a pas de chapelle. La plupart du temps, quand vous avez un nom qui commence par les, c'est un nom assez récent. Les noms vraiment anciens, ceux du début du Moyen-Âge, ce sont des noms sans article devant, du style Casto, par exemple, tout court, ou Chabier, tout court, ou Crochet. En revanche, quand ça s'appelle la Brunie, la Saretti, les Chapelies, ça veut dire qu'il y a à l'origine un monsieur qui s'appelle Monsieur Chapelle, ou qui s'appelle Monsieur Sarret, ou si ça s'appelle la Brunie, qui s'appelle Monsieur Brun, et qui a été le premier habitant. Mais alors, premier habitant à quelle époque ? En principe, assez tard. Ça veut dire pas avant le XIIIe siècle. Et on peut donc, en trouvant dans les actes, en cherchant dans les actes, le repérer assez facilement. Parce qu'à partir du XIIIe siècle, on a quand même des archives. En l'occurrence, les Chapelies, ça devrait plutôt s'appeler la Chapelie, et le premier tenancier, probablement au XIIIe siècle, eh bien, s'appelait tout simplement Monsieur Chapelle. Et il y a beaucoup d'ailleurs de chapelles à Brive, beaucoup de gens qui s'appellent Chapelle. Et il n'y a pas de chapelle tout court, il n'y a pas d'édifice qu'on puisse appeler une chapelle ou Chapelie. Une autre caractéristique quand même de toute cette zone, c'est qu'elle est limitée par trois croix. C'est-à-dire que c'est un triangle, les Chapelies, limité par trois croix, qui sont la croix de Ménagrave en face de la caserne, donc dans ce quartier qui s'appelle le quartier de la Grave, la croix du Trieuche, donc ou du carrefour du côté est, à la frontière de Malemort, et puis la croix de Malacroix, qui se trouve donc côté Malacroix. C'est une simple ferme. On peut dire que jusqu'au XVe siècle, il n'y a donc qu'une ferme ou une borderie, comme on appelle ça, dans les Chapelies. La dîme des Chapelies, c'est-à-dire l'argent qu'on doit aux prêtres, a été inféodée, c'est-à-dire qu'en réalité, elle appartient à un seigneur. Et ces seigneurs, donc, ce sont les co-seigneurs de Brive, tout simplement les Malemort et les Turenne. Voilà donc pour cette petite ferme. Tout ce secteur, pendant la guerre de Cent Ans, est vide, complètement inhabité, parce que les paysans se sont réfugiés dans la ville, et que de toute façon, être si près des murs de la ville, c'est dangereux. Parce qu'en cas d'attaque, c'est dans cette zone que se promènent les attaquants, les assaillants. Donc c'est une zone qui est inhabitée pendant la guerre de Cent Ans, et on ne retrouve de renseignements à son époque que assez tard, vous voyez, vers 1529. À cette époque-là, c'est un bourgeois de Brive qui s'appelle Jean Prouet, qui est le fermier des rentes du prieur de Brive, et qui est, semble-t-il, un peu le rentier, le seigneur rentier des Chapelies. Alors, pour vous donner une idée de ce que les paysans avaient à payer comme rente à ce seigneur, on a les chiffres, donc 2 sequiers de froment par an, 4 sequiers de seigle et 4 poules. Alors, les poules, ça intéresse toujours, parce que quand vous avez une rente d'un seigneur, les poules, ça veut dire le nombre de maisons. On ne payait pas de poules si, par exemple, on avait des rentes que sur un champ. À ce moment-là, on ne payait que pour du sel ou du blé en général. Alors, en principe, il y avait 2 poules par maison. C'est-à-dire que quand vous avez une rente de 4 poules, ça veut dire qu'il y a 2 maisons, tout simplement. Si vous avez une rente de 8 poules, combien de maisons ?
4.
Ouais. Je suis. Ici. En l'occurrence, les tenanciers sont donc pas beaucoup plus que deux. Il y a Jean Lachaise, Pierre de Bosse-Morel, qui est perrier, c'est-à-dire qui est tailleur de pierre, et il n'habite pas sur place, il habite au Malacroix, qui est juste à côté. Antoine Molly, alors Antoine Molly aussi n'habite pas directement sur place, il habite au Moulin, et probablement, comme son nom l'indique, au Moulin de Castaud. Et enfin, Jean Lacroix, qui est probablement originaire de Malacroix. Et le dernier, les tenanciers. Donc il y en a deux, en réalité, qui habitent les Chapelliers. Jean Lachaise et Jean Lacroix. Les autres, ben, c'est des voisins qui ont en même temps des terres. En 1600, ou à peu près, la famille Prouet a cédé les rentes à la famille Lemas, la famille Lemas de Brive, encore une famille bourgeoise, et elle aussi, elle va passer les rentes au Dufort, dont je vous ai parlé tout à l'heure à propos de Castaud. Et Étienne Dufort, qui est avocat en 1623, est donc propriétaire de terres, alors non seulement au Chapelier et à Castaud, mais également à Malacroix, et à la Sarretie, c'est-à-dire de l'autre côté de Brive-Carignan. Au XVIIIe siècle, en 1753, Marguerite Dufort, qui est probablement la dernière de cette famille Dufort, épouse un sclafaire, qui est seigneur de Jujal, et elle lui apporte, bien sûr, le domaine des Chapelliers. Enfin, leur fils épouse une demoiselle de Saint-Guet, et le beau-frère, Jean-Joseph de Saint-Guet, leur achète le domaine des Chapelliers. Donc, lorsque la Révolution éclate, le domaine des Chapelliers est estimé à peu près 9500 livres, autrement dit, il vaut plus cher que Castaud, et il s'appelle, du moins on l'appelle à ce moment-là, en 1789, non pas les Chapelliers, mais le Chapelier. Vous voyez, c'est un nom beaucoup plus logique, à partir d'un monsieur Chapelle, qui effectivement doit être chapelier. Voilà donc pour cette zone des Chapelliers jusqu'à la Révolution. Et nous arrivons au XIXe siècle. C'est là que tout va changer, évidemment, et tout va changer essentiellement à cause de la municipalité de Brive, qui va évidemment commencer à s'étendre dans ces quartiers. Alors la première extension, c'est l'extension du cimetière. Jusqu'à présent, à Brive, jusqu'au XIXe siècle, on enterrait un peu sur toutes les places de Brive. Alors il y avait eu le cimetière du Verdier, qui était à côté de Saint-Martin, et qui avait été désaffecté à peu près pendant la Révolution, ou à peu près, et transporté alors du côté de l'église et du couvent des Cordeliers, c'est-à-dire près par là, vous voyez. Et puis il s'était avéré trop petit. Si bien que, à partir, on peut dire, de 1820, on commence à discuter pour savoir où mettre un cimetière autour de Brive. Et la plupart des conseillers municipaux proposent ce quartier de Chapelliers. Immédiatement, il y a de grandes protestations. On explique que le ruisseau des Gaulis passe en plein dans l'endroit où on voudrait faire le cimetière, et donc que les gens qui font les tombes vont se retrouver avec, très rapidement, disons 50 cm en dessous du sol, de l'eau. D'autre part, on explique aussi qu'il y a très peu de sol profond, quoi, et qu'on se retrouve ensuite, tout de suite, avec des graviers assez compliqués. Rien n'y fait. Et en 1824, donc, la municipalité achète à un docteur de Brive, qui s'appelait M. Puybarret, le terrain numéro 1, que vous avez donc là, à côté de la route d'Aurillac, qui n'est pas encore véritablement une route départementale. Ce premier terrain, donc, acquis pour la somme de 10 000 francs, ce qui est considéré comme très important. Presque immédiatement, il s'avère trop petit, et en 1879, on achète le terrain numéro 2 pour 30 000 francs. Toujours à M. Puybarret. Là-dessus, alors, il y a de grandes discussions qui s'élèvent, parce qu'à cette époque-là, les convois funèbres passaient par l'ancien chemin qui allait vers Cognac et qui partait de la porte du salon, c'est-à-dire juste à côté, là. Ensuite, suivait les terrains du général Dalton avant la Révolution. Et ensuite, c'est devenu des écoles. Le long de cette rue, il y a l'école Jules Ferry. Dès que cette école a été construite, c'est-à-dire dans les années 1880, il y a eu des protestations des maîtres d'école, et surtout des maîtresses d'école, parce que c'était une école de filles, en disant que les convois funèbres qui passaient dans cette rue troublaient les élèves. Alors soit, qu'elles étaient en récréation, dans ce cas-là, évidemment, elles venaient toutes regarder passer le convoi, ou bien au contraire, qu'elles étaient en classe, et que ça les distrayait, et qu'elles allaient regardez ce qui se passait. Ça n'a pas été pris en compte. Les convois funèbres ont continué à passer par ce chemin, cet ancien chemin de Cognac, jusqu'à ce qu'on construise la route départementale et qu'elle puisse servir alors peut-être plus commodément. Ensuite, la deuxième nouveauté, ce qui va aussi changer beaucoup la physionomie du quartier, c'est la construction de la caserne de Prune. Alors, la caserne de Prune se trouve donc dans ce carrefour, qui n'est pas encore un carrefour, puisqu'on vient juste de commencer la deuxième zone des boulevards. Et ça, c'est un des désirs de la municipalité de Prune les plus importants. En effet, lorsque vous avez une caserne, vous avez aussi, du même coup, un grand nombre de gens qui viennent. Alors d'abord, naturellement, tous ceux qui profitent de la présence de tous ces soldats au point de vue des produits, enfin tout ce qui se mange, tout ce qui permet donc la vie de la caserne, et puis aussi toutes sortes d'autres métiers qui se mettent tout autour. Et donc Prime réclame avec beaucoup d'insistance dès 1874, donc peu de temps après la guerre de 70, une caserne. Et ils vont faire de gros sacrifices pour avoir cette caserne. Pour commencer, ils achètent le terrain. Tous ces terrains qui se trouvent dans cette zone appartenaient à une famille d'Anglard qui était propriétaire d'un petit château, dont je ne vous parle pas parce que ce château se trouve ici, donc hors de notre zone, et qui était le château de Bastille. Ils vont donc acheter 4 hectares sur ces terrains du château de la Bastille. Prix 46 000 francs pour les terrains. La ville paye les bâtiments, la construction des bâtiments, pour 326 000 francs. Elle paye aussi un champ de tir qui se trouve dans cette zone et qui coûte 70 000 francs. Et tout ça, donc, grâce à des emprunts de 1 300 000 francs. Pour les gens de la ville de Brive, qui n'étaient guère que 8 000 à peu près, en 1874, c'est un chiffre considérable. Ça veut dire que la ville s'est énormément endettée. Heureusement, c'est une époque où il n'y a pas d'inflation, c'est une époque où on peut faire des emprunts à très long terme, et donc elle s'en est tirée. Elle s'en est tirée et arrive donc le 63e de ligne en 1877. C'est le premier régiment donc de Brive. Ensuite, il en viendra un autre au 20e siècle, parce que ce 63e de ligne s'était assez mal comporté lorsqu'il y avait eu des émeutes du côté de Narbonne et de Montpellier au temps des vignerons, c'est-à-dire qu'ils avaient refusé de marcher contre les émeutiers. Et à partir de ce moment-là, Clémenceau, qui était ministre de l'Intérieur, avait décidé qu'on ne laisserait jamais les gens d'une région dans leur région d'origine. Parce que s'ils étaient dans leur région d'origine, ils risquaient de fraterniser avec leurs frères et leurs cousins qui étaient en train de manifester, vous voyez. Et le résultat, c'est qu'il a manipulé complètement les régiments de manière à envoyer dans tous les coins les jeunes conscrits, de préférence pas dans leur région d'origine, vous voyez. Donc les gens de Brive devaient logiquement être envoyés ailleurs. Ça a donc, au moment de la guerre de 14, beaucoup modifier l'aspect des régiments. Parce que jusque-là, c'était vraiment des régiments locaux, avec des officiers qui très souvent parlaient patois comme leurs soldats. Au moment de la guerre 14, certains régiments ont vraiment posé des problèmes parce qu'ils avaient des officiers qui étaient des officiers du nord de la France et qu'eux, ils étaient du sud. Et ils parlaient forcément patois. Et par exemple, lorsqu'il y a eu des gaz, quand on a envoyé des gaz, les officiers leur ont crié de mettre leur masque à gaz parce qu'il y avait une attaque au gaz. Et la plupart du temps, ils l'ont dit en français. Et les soldats qui étaient du midi, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce qu'on leur disait. Et très souvent, donc, ils ont été gazés à cause de ça, parce qu'ils ne s'étaient pas mis leur casque à temps. Et, autrement dit, Clémenceau avait raison s'il voulait avoir la paix au moment des manifestations. Mais malheureusement, au moment de la guerre 14, ça a été un assez mauvais résultat. Quoi. Bon, je suis loin des Champenis et j'y reviens. La troisième nouveauté, c'est le chemin de fer. Alors, le chemin de fer est donc le chemin de fer périlleux, en principe long. Jusqu'ici, il arrive à Brive en 1862. Ensuite, il faut construire la ligne entre Brive et Tulle. Elle va prendre du temps et elle ne sera finie que dans les années 70, et même 77. Cette zone, donc, qui limite les Champenis et qui est la ligne du chemin de fer, va donc être aussi l'objet quand même d'un peuplement et de gens qui vont venir s'installer le long du chemin de fer. Alors évidemment des cheminots et des gens qui travaillent sur une ligne de chemin de fer et puis aussi évidemment d'autres ouvriers. Mais tout ça c'est encore peu de choses. Vous avez ici la situation, si vous voulez, de Brive en 1871, on va dire à peu près. Il y a trois maisons au Champenis, voilà, trois fermes, et peut-être deux autres sur ce chemin qui vient de l'ancienne route de Paris. Mais c'est tout. Vous voyez que c'est encore un vide presque total. Et nous continuons. C'est à peu près une carte de la même époque. Vous voyez, elle date de 1880. La ligne du chemin de fer est vraiment monstrueuse. On vous la montre de façon remarquable parce que c'est l'époque où vraiment le chemin de fer est devenu la chose moderne par excellence. On vous montre aussi assez bien la route départementale qui va traverser toute cette zone. Et vous voyez que on est toujours dans un pignon de maisons. Il y en a trois, quatre, cinq toujours. Trois du côté de la grave. C'est tout ce qu'on peut voir. C'est encore, vous voyez, très peu peuplé. Ce que vous voyez aussi sur cette carte intéressant, c'est qu'on vous montre les châtaigniers. Ils sont encore très nombreux sur les collines, ces petits châtaigniers. Vous voyez, tout ça, c'est des zones de châtaigniers. On vous montre aussi les vignes. Elles sont moins nettes ici que dans la partie nord de Brive, vous voyez. Tout là-haut, vous avez des vignes en quantité du côté du Vianur. Ici, les vignes de Chèvre-Pujol ne sont pas visibles, ça sera un petit peu plus bas, vous voyez. Ici, c'est vraiment des zones à châtaigniers. Il faut dire que vous êtes du côté du vent du nord et que le vent arrive directement sur ces collines. Enfin, vous voyez que les Champenis et toute cette zone est uniquement composée de champs. Ce sont des champs, des prés, et il n'y a rien d'autre, donc. Il n'y a pas non plus de vignes dans ces coins. Alors, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous connaissent M. Robière. M. Robière était un ancien instituteur et qui s'occupait de la mutuelle des instituteurs. Il était originaire des Champenis et c'est lui qui nous a un petit peu raconté l'histoire ancienne des Champenis. Alors, il nous raconte donc ce qu'étaient les Champenis au XIXe siècle. Ça, c'est, je lis ce qu'il dit. Elle faisait partie de la couronne maraîchère qui entourait la ville presque entièrement. Les fermettes des maraîchers s'éparpillaient à travers la campagne et faisaient vivre, outre leurs propriétaires, des journaliers gagne-petits, presque tous originaires des métairies autour de Brive. Et là, effectivement, il a raison, parce que lorsqu'on regarde les noms des gens qui habitent les Champenis au XIXe siècle, on s'aperçoit qu'ils sont originaires de Connac, et puis du sud de Brive, par exemple de Belley, de Laumont et de tous ces villages du sud. Le rêve des journaliers était de devenir propriétaire et de tenir un banc sur la place de Brive les jours de marché. Alors ça, évidemment, un simple journalier qui habite généralement une petite, toute petite ferme et qui est quelquefois simplement aussi ouvrier agricole chez un propriétaire, aimerait bien devenir à son tour propriétaire. De nombreux lieux-dits émaillaient cette république de jardiniers, ainsi chez Issier, alors il donne le nom des lieux-dits, le champ bas, la pièce longue, chez Lagadou, alors là c'est tout à fait typique des déformations que prennent les noms, c'est pas du tout Lagadou, c'est Monsieur Labadour. Monsieur Labadour était tanneur, et donc c'est les terrains de Monsieur Labadour qui sont transformés en Lagadou. Les parcelles, souvent marécageuses, comportaient toutes des mares où l'eau ne tarissait jamais, même en été. Certains avaient construit des châteaux d'eau remplis à l'aide de pompes à bras. Mais on arrosait le plus souvent avec d'énormes arrosoirs en zinc, en été, avec l'aide des enfants. Outre les légumes, on élevait des poules, des lapins, une vache et quelques chèvres. Les vergers étaient rares, mais les treilles échevelées, les arbres fruitiers de plein vent, occupaient des endroits choisis. Il a raison aussi de vous dire que les vergers étaient rares, parce que c'est une zone où les vents du nord sont particulièrement froids. Et par exemple, lorsqu'il y a des printemps pourris, avec du gel, c'est la région de Brive où les arbres fruitiers gèlent le plus vite, vous voyez. Donc, effectivement, on avait intérêt à avoir à la rigueur des arbres de plein vent, c'est-à-dire des arbres supportant le froid, surtout pas des cerisiers, vous voyez, par exemple. Oui. Chaque maison avait sa tonnelle, cette maison donc basse, allongée, construite en brasier, ses fenêtres barrées de volets pleins. La maison du jardinier était complétée parfois d'une grange et d'une étable à porc. On pêchait derrière le cimetière, dans le ruisseau, et les nuits d'été s'élevaient le concert des grenouilles dans les mares. Donc imaginez une zone vraiment très maraîchère, avec des tout petits lopins de terre, peu de fermes, des fermes donc habitées par ces jardiniers propriétaires et également par des ouvriers agricoles. Et Monsieur Robière va nous raconter une histoire de loup. Alors, cette histoire de loup, selon lui, elle remonte à son grand-père, qui s'appelait Monsieur Simon, son arrière-grand-père, pardon, qui s'appelait Monsieur Simon, et elle remonte pratiquement à la guerre de 70. Vous allez voir que ça peut se discuter, c'est peut-être plus ancien. Son arrière-grand-père exploitait une ferme avec deux domestiques. Il récupérait les boues grasses de la caserne pour en faire de l'engrais. Ce qu'il appelle les boues grasses, c'est les os de tous les bœufs, les vaches et porcs qu'on abattait à la caserne et donc qu'il récupérait. Monsieur Simon avait fait la guerre de Crimée et se réunissait avec ses camarades pour se raconter leur campagne. Il avait conservé son fusil. Lors d'un hiver très rude, vers 1870, la neige était tombée en abondance, le froid avait tout figé, et les chiens couchaient la nuit dans la grange. Une nuit, les domestiques furent réveillés par les gémissements des chiens. En trouvant leur lucarne, ils virent des formes sombres autour du monticule d'os qu'on retirait des boues grasses. Et ils entendirent les craquements de formidables mâchoires. Les loups étaient descendus jusqu'aux portes de Brive. Monsieur Simon chargea son fusil, mais les loups ne revinrent pas. Vous voyez que c'est une sombre histoire qui est censée dater des années 1870 et qui m'a été racontée à lui, M. Robière, pas par son arrière-grand-père, mais probablement par son grand-père. Est-ce que ce n'est pas quand même plus ancien? Il faut s'imaginer qu'en 1870, on commence à construire le chemin de fer, quand même, dans ce secteur. Si vous voulez, ce n'est pas très habité, mais ça commence quand même à être un peu animé. Je me demande si ce n'est pas une histoire qui remonterait plutôt au temps de Napoléon, c'est-à-dire vers 1815, au moment des défaites des soldats revenus d'Espagne, et où il y avait de gros problèmes aux alentours de Bébine, 1870, parce que je ne sais pas quand a été tué le dernier loup en Corrèze. Je sais qu'il y a eu des histoires de loups du côté d'Alassac, quand on a construit le barrage du Saillant, et il y avait semble-t-il encore des loups dans ce secteur. Mais ça remonte alors aux années 1900, quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où sortaient ces loups, vous voyez. D'où ils pouvaient venir pour se retrouver dans la bande du Prim en 1870. Mais enfin, c'est une belle histoire. Et nous arrivons alors à la période plus récente des Chapelliers. Quelque chose qui, évidemment, dans la mémoire des gens, est beaucoup plus clair, enfin, beaucoup plus clair, mais en même temps, sujet à pas mal de polémiques. Les gens discutent beaucoup sur ce qui s'est passé aux Chapelliers pendant la guerre. Alors, de 1939 à 1944, et jusqu'en 1950, donc, les Chapelliers vont être un peu l'endroit où se réfugient des usines d'armement, d'abord, puisqu'elles s'installent à Caston, et puis aussi tous les ouvriers qui ont été rapatriés et qui viennent s'installer dans le coin, s'installer aussi à Enval, mais un peu plus dans la vallée d'Enval, donc, bref, qui utilisent ce secteur. Tous ces gens qui sont repliés de l'est de la France ou du nord de la France, dès 1939, ont beaucoup de mal à se loger. Il faut vous imaginer qu'à cette époque-là, Brive n'a aucun logement social. Le seul HLM, si on peut dire, du coin, c'est celui des Rosiers, de l'autre côté de Brive, qui est déjà peuplé, et donc on ne peut pas y mettre des réfugiés, des gens qui viendraient s'installer à Brive. Aucun logement social. On va donc construire, dans l'urgence, en 1939, sur les terrains de M. Issier, qui était donc le principal fermier, le principal propriétaire des Chapelliers, on va construire des baraquements qui sont certains en dur, mais surtout en bois. 48 baraques, donc. Beaucoup sont en briques creuses, autrement dit, sans aucune... comment on peut dire
Isolation.
Oui, ça n'était pas du tout préservé du froid, quoi. Revêtus à l'intérieur et à l'extérieur de ciment, tout ça n'est pas très encourageant. Des couvertures en tuiles, un parquet en ciment et un plafond en évrite. Il y avait des poêles à bois dans certaines, mais enfin pas dans toutes, et on se dépêche donc d'y loger les réfugiés. Pendant la guerre, les Allemands qui arrivent en 1942 font une inspection de ces baraquements, jugent qu'ils sont vraiment pas confortables, refusent donc de s'y installer. Et on va y mettre ce qu'on appelait les GMR, c'est-à-dire des brigades de sécurité, des gens qui étaient là pour faire la police, et leurs familles. Probablement, beaucoup de réfugiés sont repartis dans leur région d'origine, certains le sont restés. En 1944, on y met les prisonniers allemands, qui vont être d'ailleurs ensuite répartis dans des fermes, et servir donc dans ces fermes d'ouvriers agricoles. Mais on y met aussi des collaborateurs, qui ont été récupérés donc en 1944-1945, et puis des Géorgiens. Les Géorgiens, ce sont les soldats qui étaient hostiles à Staline et au gouvernement russe, et qui s'étaient battus dans l'armée allemande. C'est donc des prisonniers considérés comme des prisonniers allemands. En même temps, on n'ose pas trop les renvoyer en Russie, parce qu'on sait qu'évidemment, si on les envoie en Russie, ils sont bons pour aller dans les camps de Sibérie, enfin, au mieux. Donc on les garde là, et je pense qu'on les a gardés un certain temps sans trop savoir quoi en faire. Après la guerre, Brive est toujours en manque de logement social, et on va donc y loger, toujours au Chapelliers, ce qu'on appelait à l'époque des économiquement faibles, des indésirables, parce qu'à l'époque on n'avait pas comme maintenant des principes quoi, sur le vocabulaire, donc des indésirables, d'où un amalgame extrêmement original. D'un côté vous avez des familles nombreuses avec beaucoup d'enfants et faibles salaires, ou même quelquefois bon, en chômage, encore qu'après la guerre il n'y avait pas énormément de chômage. D'autre part donc des cheminots, enfin ce qu'on appelait à l'époque des vagabonds, qu'on essayait d'installer là. Et tout ça, ça formait donc un mélange un peu détonnant. Petit à petit, on va donc les évacuer vers la zone qu'on appelle la zone de place, le quartier de place, qui est un petit peu plus loin du côté de Gaston. Et on installe donc dans les baraquements une école, une maternelle, une garderie, des cours agricoles, et enfin le club de Raoul Dautry, qui est le club du quartier. En 1950, l'armée, qui était toujours propriétaire de ces baraquements, vend ces baraquements et le terrain à la BIM, à l'office public HLM. Et cet office public est donc dirigé par le maire de Brive, qui était M. Chapelle. Il va donc essayer de changer un peu la situation. Voici les baraquements. Ce sont, vous voyez, ce sont des petits baraquements familiaux. Chaque famille avait le sien. Il y avait en même temps des sortes de jardins, enfin des terrains vagues autour des baraquements. Ce n'était pas, si vous voulez, le principe de la cité tout en hauteur, où les gens sont entassés, cette fois-ci en hauteur et pas en plat. Oui, ça, c'est j'aurais dû le mettre avant, celui-là. Vous voyez, c'est le quartier des Chapellis tant qu'il n'y a pas encore les baraquements. Vous voyez la chapelle, la caserne, le couvent des Cordeliers, et puis ce quartier où il n'y a que des terrains maraîchers. Ça, c'est l'ouverture donc, du boulevard qui mène vers le pont, seulement en 1894, et les rues donc, qui commencent seulement à être tracées. Vous voyez, en face de la caserne, c'est le quartier d'Agrave. Immédiatement après, les Chapellis. Tout ce quartier-là commence aussi à avoir des rues. Vous voyez, nous sommes très tardivement. Hein. Nous sommes donc dans les années 1909. Oui. Là, vous avez des chiffres de 1923. La mère de la Corrèze donne en 1923, avant les baraquements, donc, une trentaine de familles aux Chapellis, dont les puits de bois, les puits barrets et les issiers, cette famille qui avait donné les terrains. Voilà, alors la famille issier donc, est celle qui avait fait ses élevages. Paul Issier, qui était, paraît-il, un des fils de la famille, n'avait pas envie de faire du maraîchage, et lui, alors, il s'était spécialisé dans la chanson. Il chantait dans les foires et dans les marché à la manière de Fernandel à l'époque, vous voyez, dans le style comique. Et M. Peyramort, donc, qui est journaliste, en 1957, il interroge cette lame ici, au moment où on va transformer ou détruire les baraquements. Voilà ce qu'il dit, M. Peyramort. La ferme n'a pas changé avec sa cour, ses volailles et ses pigeons, donc nous sommes en 1957. Madame Issier parle de ses 11 vaches normandes qui donnent 150 litres de lait et de leur élevage de cochons. En 1939, son mari se fait réquisitionner donc 4 hectares de bon pâturage à 152 francs le mètre carré, ce qui n'est évidemment pas cher, alors qu'en 1957, Madame Issier rappelle que les terrains valaient 3000 francs le mètre carré. Ben oui, la guerre est passée par là. Puis viendront ensuite, lorsque Madame Issier aura renoncé à son élevage, les serres de l'horticulteur Mérignac. Enfin, en 1930, grâce à la loi Boucher, des maisons individuelles commencent à s'édifier le long des chemins bicinaux. Et nous arrivons donc au Chapellis des projets de 52 à 57. Voilà ce que le maire, donc M. Chapelle, a prévu. Construction de 400 logements HLM et d'un groupe scolaire de 21 classes. Seulement ça, c'est les décisions de 1952. En fait, ça coûtait trop cher et on va donc ramener le nombre des logements à 352. À l'époque, c'était des bâtiments qui avaient tous les mêmes normes. Et les normes, c'était des appartements de type 2B. Alors ça veut dire une salle de séjour, une chambre, une cuisine, une salle d'eau. Et de type 3B, une salle de séjour, deux chambres, une cuisine et une salle d'eau. Alors, les gens qui devaient habiter ces chapellis, c'était ceux des bravements et également les officiers, ou en tout cas les sous-officiers de la caserne. C'était à eux qu'était réservée, si vous voulez, une grande partie des logements. Les bâtiments vont coûter 344 millions de francs, les travaux 23 millions, les honoraires d'architecte 15 millions, et les travaux donc durent jusqu'en 1957. Alors il s'est mis à y avoir donc ces énormes bâtiments d'après-guerre, dont le plus grand avait 8 étages et 56 logements. Et puis il y avait des bâtiments perpendiculaires, il y en avait 3, qui étaient des blocs de 28 logements. Et enfin, le long du chemin de fer, un bâtiment de 64 logements, qui était donc parallèle à la voie ferrée. Tout ça, ça faisait la plus grosse cité de Brive en 1957. On était encore loin de construire Gaubre et Tujac, vous voyez. C'était vraiment la grande zone de cette époque-là. Voilà, et en même temps, donc, on a construit la chapelle de Sainte-Thérèse, qui était donc une annexe de Saint-Martin. Alors voici des photos de l'ancien, les anciennes chapellies, puisque maintenant ça a été détruit. Vous voyez ces bâtiments qui formaient des véritables barres, et puis celui de 68 étages qui se dressait au milieu. Là, c'est dans l'article de M. Peramor. M. Peramor donc nous parle de Mme Issier, et puis le titre de son article est tout à fait caractéristique, une cité radieuse va naître au chapelier. C'était vraiment l'époque là, des années 50, où ça paraissait le summum de la modernité. Voilà, ben, c'est les bâtiments des années précisément 50-60. Voici l'église des chapeliers, elle aussi évidemment très moderne. Oui, alors là, les gens des chapelliers m'ont donné toute une explication sur cette église qui donc posait des problèmes parce qu'il y avait déjà deux églises à Brive, Saint-Martin plutôt pour la ville et Saint-Sernin, l'église qui a été construite en 1880 et qui était censée s'occuper de tous les villages. Cependant, avant la Révolution, Saint-Martin avait eu tous ses villages. Possédait tous les villages de l'Est de Prouve. C'est donc au prieur, enfin c'est donc au curé de Saint-Martin qu'on va demander l'autorisation de construire cette église des chapelliers. Elle est donc construite donc en 1957 par l'abbé Garlou, qui va vraiment, si vous voulez, faire tous ses efforts pour que ce soit avec l'aide des paroissiens que tout soit construit. Il a donc fait le presbytère, construit des salles de catéchisme et fini à peu près la construction en 1958. Oui. Et donc, elle a été consacrée en 1958 par Monseigneur Chassagne. Voilà. Voilà donc cette église des chapelliers. Je compte plus sur ce problème de vocabulaire. Quand on lit les articles de M. Peramor, et d'une manière générale aussi tous les articles qui paraissaient dans les journaux de l'époque, on peut constater qu'on utilise un vocabulaire qu'on n'utiliserait pas maintenant. Alors voilà des exemples de ces articles. Les chapelliers s'intègrent dans un plan d'embellissement et d'extension de la commune. Où trouver l'argent nécessaire à ces vastes travaux? Les loyers ne sont pas très intéressants, 4 900 à 5 900 francs. Les taxes communales et les impôts fonciers sont faibles. Où reloger les indésirables ou les asociaux qui sont logés gratuitement? C'est mis en gros dans l'article. Ou à titre de simple tolérance. On ne peut les jeter à la rue sans contrepartie. Les chapelliers vont détruire peu à peu leur légende de cousine pauvre de la ville. Il fut un temps où l'on disait « Chapelliers » disait Taudis. Son habitant se saoulait tous les samedis, mangeait en quelques jours l'argent des allocations. Aujourd'hui, 1960, dans cette zone, chaque pierre neuve qu'on pose masque davantage son visage de misère. Car il est exact que la cité des chapelliers, fournie trop souvent encore par la rubrique des faits divers de nos journaux. La faute à qui ? Conclut M. Béramort, à la misère. Vous voyez, c'est le type d'article qui était tout à fait caractéristique des années 60 et qu'évidemment les journalistes ne referaient pas maintenant. Ils utiliseraient un autre vocabulaire et surtout d'autres idées. Vous voyez, ils ne tourneraient pas autour des indésirables et des associés. Oui. Voilà, et je termine donc sur cette carte qui vous donne une idée des zones que la ville va développer. Donc ce quartier des Chapelis, effectivement, la première des cités, et puis de l'autre côté de Brive, beaucoup plus importante, les cités de Tujac et de Vaux, qui vont être construites, elles, après 1962, c'est-à-dire après l'accroissement démographique de Brive, qui a été très important vers les années 62-68. Voilà. Je crois que c'est tout. Ça, c'est le nouveau quartier, voilà. Ça, c'est le quartier qui a été construit de 96 à 2014. Et c'est là qu'on voit aussi qu'on ne se sert pas tout à fait des mêmes vocabulaires. On dit que le quartier se rénove. Alors, on commence par la démolition. En fait, ce n'est pas la démolition, c'est la déconstruction maintenant. On ne dit pas démolir, on dit déconstruire. Mais ce n'est pas